Tu ne veux pas te dire où se trouve le QG des féministas?
Oui, évidemment.
Tu es une femme.
Ok, on va être très ferme.
Nous appelons toutes les femmes de la galaxie à joindre notre mouvement de lutte.
Putain les FN.
Nous avons aussi besoin d'un porte-parole qui sache écrire.
Les hommes étaient logiques et les femmes lubriques.
Salope!
Salut, salut!
Salut, salut! En ce mois d'avril pourri, aux allures hivernales, on a décidé de se faire la malle au soleil, pour de bon, en laissant tout notre petit monde derrière nous. Avec l'argent de la radio, à nous les vacances, la chaleur et les cocktails.
Attends, là, en fait, il n'y avait pas grand-chose dans la caisse, mais t'inquiète, j'ai assuré nos arrières. Tu croyais pas qu'on allait vivre d'amour et d'eau fraîche quand même, avec le luxe et la luxure dont on a l'habitude? Je crois qu'on tiendrait pas longtemps avec si peu de glamour, hein.
Ah ouf, c'est vrai qu'avec tous ces gens qu'on exploite à la radio, l'air de rien, on doit commencer à avoir un sacré petit magot qui dort au chaud sur notre compte secret. Tu l'avais ouvert où déjà? Sur une île, non? Chypre, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Par contre, je crois qu'il faudrait qu'on se dépêche de les retirer parce que je sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'il y a un peu d'attente au guichet là-bas.
Ok, après vite, hein, on quitte le navire, avant que la faillite provoquée ne fasse sombrer la plèbe de Saint-Afrique dans les eaux troubles de l'autogestion, des agis de quartier et des soupes populaires. T'imagines tous ces pauvres laissés à eux-mêmes et privés de nos capitaux? Qu'adviendra-t-il? Ça serait sûrement un véritable chaos sur la ville. Mais bon, heureusement, on sera déjà loin.
Eh oui. Bon, sans rire, tu crois vraiment au chaos? Il commence à y avoir quelques exemples de ce qui se passe après que les rats aient quitté le navire avec leurs gros sous-sous.
Donc Chypre, c'est trop frais, on prépare notre analyse, on vous tient au courant.
La Grèce, c'est galvaudé, hein. On attend une bonne occasion avant de vous en parler.
Il nous reste donc, vous l'aurez deviné, un pays beaucoup plus sensuel, l'Argentine et ses expériences rebelles.
Effectivement, en Argentine, de 8000 à 10000 emplois ont été conservés par les travailleurs et travailleuses dans des entreprises qu'ils ont récupérées et remises en marche. La crise financière de décembre 2001 avait poussé les patrons à abandonner les salariés à leur propre sort en emmenant avec eux les capitaux. Cette expérience d'autogestion ouvrière constitue un des phénomènes sociaux les plus évidents de la révolte populaire du 19 et du 20 décembre 2001. Si elles ne constituent pas un mouvement unique et font coexister en leur sein différentes propositions et expériences, les entreprises récupérées par leurs ouvriers cherchent un projet politique qui leur soit propre.
Depuis la crise économique qui a ruiné l'Argentine en 2001 donc, de plus en plus de chômeurs occupent leur entreprise en faillite et les remettent en marche sans patron.
Ce mouvement de récupération des entreprises par les travailleurs a pourtant été amorcé dès 1994. Il a atteint une réelle visibilité publique après la crise de décembre 2001, consécutive à l'accélération du processus. Si le mouvement a atteint son apogée entre 2002 et 2004, il s'est néanmoins poursuivi et a même retrouvé de la vigueur avec la crise amorcée en 2008. Ces expériences ont enrichi le répertoire d'actions et de réponses sociales face au modèle néolibéral au cours de cette période.
Sur ces petites explications, on vous laisse devant la télé. Les infos de 2001 se chargeront pour nous de vous rafraîchir un peu plus la mémoire. En suivant la magnifique chanson d'amour d'une Chilienne née en 1917, qui n'a pas grand-chose à voir avec Shakira, Violeta Parra, une superbe femme, artiste, première latino-américaine à exposer seule au Louvre, militante, folle, arrogante, idéaliste, qui a fini par se foutre en l'air.
Et pour finir en beauté, un entretien avec Flora, reporter de choc, qui nous livre son récit de voyage à travers les usines récupérées d'Argentine et notamment celle de la Bruckmann.
« 2001, l'Argentine est au bord du gouffre. Les rues de Buenos Aires à feu et à sang. »
Trois années consécutives de récession,
baisse de la production, baisse de la consommation, chute du PIB, un chômage qui agresse 30% de la population, et pour parachever l'agonie, une dette extérieure qui paralyse le pays. Une dette, oui, nous y reviendrons. Mais de combien ? 150 milliards de dollars. Des dollars, car depuis 1990, l'Argentine a choisi la voie de la parité. Un peso égale un dollar. Président Fernando de la Rúa prend l'avion de la dernière chance, direction Washington. Au programme, une rencontre avec George Bush Jr., 43e président des États-Unis. Objectif ? Inciter les banquiers du FMI à un dernier prêt d'un milliard de dollars. Les intérêts de la dette sont le nœud du problème. Au Parlement, on s'est engagé à réduire les dépenses publiques du pays. Le FMI demande plus. Déficit zéro. Au gouvernement radical de négocier avec le vieux rival péroniste en charge des provinces les plus endettées du pays. L'impossible négociation va bien sûr échouer. Les péronistes affûtent déjà leur retour au pouvoir. Le FMI refuse catégoriquement tout nouveau prêt. Pour les milieux d'affaires, cette décision est une menace évidente. La fuite des capitaux commence. Des millions qui fileraient par camion. On viderait les caisses du pays.
Le chaos en Argentine, après deux jours d'émeute, un calme précaire dans la capitale, alors que le président a levé l'état de siège en démissionnant. Dernier bilan, au moins 26 morts et des centaines de blessés.
L'État est en faillite, sa dette publique a explosé. Le gouvernement bloque l'argent des particuliers. L'heure est à la survie, la rue a faim. Je dis que le gouvernement doit payer pour les mesures qu'il a prises. Il doit voir comment le peuple souffre. Image symbole de la banqueroute. Le président quitte le pays par hélicoptère. Les banques sont prises d'assaut. Le plan de rigueur drastique du FMI ne fait qu'aggraver la situation. Un an plus tard, l'État argentin change radicalement de cap. Il refuse d'appliquer l'austérité et se lance dans une politique d'aide aux plus démunis. Avec pour objectif de relancer la consommation et dans le même temps, l'État joue sur sa monnaie.
Le gouvernement a dévalué, a suspendu la parité et a dévalué le dollar. Désormais, valait 3 pesos. Donc ça a rétabli des marges de manœuvre pour les producteurs argentins et le gouvernement a renoncé à recourir au FMI, a suspendu le remboursement de la dette et il s'est trouvé qu'il a bénéficié à ce moment-là d'une conjoncture internationale très favorable.
Miracle, l'Argentine affiche 3 ans après une croissance à la chinoise, osant des mesures protectionnistes, imposant aux banques de renégocier les dettes à la baisse. 10 ans après la faillite, le prix Nobel américain d'économie Paul Krugman plébiscite la politique économique de l'Argentine. Elle serait un modèle de sortie de crise à suivre.
Maldigo el fuego del horno, porque mi alma... el verano sincero maldigo, profano y santo, cuánto será. Grande será mi
voix. C'est plutôt des veines sur Radio Sainte.
Journaliste de formation, j'ai travaillé notamment à l'Humanité pendant 2 ans, et puis je travaillais surtout sur les questions de société, et mon contrat s'est terminé. J'avais envie d'explorer un petit peu d'autres et notamment plus au niveau de l'édition alternative. J'avais entendu parler d'un mouvement d'édition qui s'appelle les Cartoneras et qui travaille à partir de récupération de cartons. Et donc il y a tout un réseau de coopératives éditoriales qui travaillent sur ce modèle-là, qui se sont inspirées d'une maison d'édition qui est née à Buenos Aires dans les années 2000 au moment de la crise, donc qui édite des jeunes auteurs latino-américains et qui travaille à partir de cartons qui rachètent aux cartoneros, qui sont les mecs qui ramassent le carton dans la rue, entre autres matériaux pour les revendre et se faire un peu d'argent, donc en faisant les poubelles en clair. Du coup, dans l'idée de monter après une maison d'édition sur ce modèle-là en France, je suis partie passer 4 mois à travailler là-bas, et puis j'en ai profité pour aller voir un petit peu ce qu'il était devenu, tout le mouvement des usines récupérées, autogérées, des coopératives qui sont nées en 2001 au moment de la crise économique en Argentine.
Cette crise, elle a forcé les gens à se débrouiller par eux-mêmes, étant donné que les patrons se sont fait la malle avec les capitaux. Et donc, qu'est-ce que t'as pu en voir, toi, là-bas, de cette nouvelle organisation sur le tas
Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, justement, là, c'est 12 ans après. Hein, donc, c'est ce que, à la base, c'était des initiatives vraiment citoyennes, enfin, des gens qui se sont organisés comme ils ont pu. Hein, c'est vraiment système D. Donc, que ce soit dans les usines ou dans les coopératives qui sont nées à ce moment-là, qui se sont formées pour mettre en place des choses nouvelles. C'est très différent la manière dont les gens l'ont vécu, parce que d'une structure à l'autre, il n'y a pas la même culture. Par exemple, donc là, ce dont je voulais vous parler un peu aujourd'hui, c'est l'histoire d'une usine qui s'appelle la Bruckmann, qui était une usine de textile. Y avait déjà une culture qui est plus une culture ouvrière, prolétaire et tout ça, ce qui n'est pas du tout le cas dans des milieux comme la coopérative éditoriale où j'étais, où c'est plus des gens qui sont déjà sensibilisés à une envie de fonctionner, de travailler différemment. Donc là, c'est vraiment des ouvrières qui étaient exploitées par un patron dans un schéma assez classique, quoi. Ils sont arrivés un beau matin et il n'y avait plus personne. Le patron s'était fait la malle en Uruguay. Mais il avait oublié un petit détail qui était quand même important, c'était les machines à coudre qu'il n'avait pas eu le temps d'emporter. Donc dans beaucoup de cas comme ça, il y a les ouvriers rentraient pleurer chez eux en se demandant comment ils allaient faire pour nourrir leurs gosses. Et là, ça a été un petit peu différent, puisque très vite, c'était une usine majoritairement et massivement féminine. Il y avait 80% de femmes, je crois, sur peut-être 200 employés. Et c'était des femmes de caractère qui ont décidé qui se sont organisées en AG, qui ont occupé l'usine et qui ont décidé de, bah, puisqu'il y avait encore leur outil de travail, de continuer à faire tourner l'usine comme elle pouvait, quoi. Sachant que ça a été très compliqué, puisque le patron n'avait pas renoncé à assez bien, donc il a tout fait pour les en empêcher. Les syndicats étaient complètement vérolés aussi, donc ils les ont pas aidés du tout. Les militaires ont aussi essayé de les expulser. Donc ça a été un processus qui a duré plusieurs années pour qu'elles puissent retrouver des clients, remettre en marche et puis faire voter une loi qui les autorise à récupérer le matériel en cas de faillite et puis de désertion du patron. Donc ce qu'elles ont réussi finalement à obtenir, mais quelques années plus tard.
Du coup, dans la durée, dans le temps, ça tient, quoi. Dans l'avenir, ça va continuer. Et maintenant, légalement, elles ont leur place, quoi.
Ouais. Alors c'est quand même pas évident tous les jours. Donc ce qui est intéressant, c'est que donc tout ce mouvement, ça a forgé une entente très très forte entre les ouvrières qui étaient là dès le début, qui ont fait toute la bataille. Ce que ça, notamment, elles ont dû occuper une place quand elles se sont fait dégager par l'armée. Elles ont occupé une place sous une tente pendant 8 mois, donc en plein hiver, sachant que là-bas. Il y a une grande souplesse au niveau de l'âge de la retraite. Il y en a qui avaient 80 balais dans le tas, donc être sous une tente en plein hiver, c'est pas toujours facile. Et puis enfin voilà, il y avait aussi des mères qui avaient des enfants en bas âge, donc il fallait aussi faire comprendre un peu l'enjeu de la bataille auprès de leur mari, ou parce que ça reste quand même une société assez machiste et assez avec un schéma assez traditionnel. Et du coup ça a été une double aventure, enfin, d'émancipation, à la fois au niveau du travail et au niveau familial. Donc aujourd'hui les anciennes revendiquent ça de manière très forte, donc dans la façon de fonctionner, même si tout est autogéré et qu'elles elles participent à former les nouveaux et tout ça, il y a quand même des fois des tensions entre ceux qui n'ont pas connu cette période de toute cette aventure-là et puis les anciennes qui essayent d'avoir un pouvoir de décision un peu plus fort, même si elles fonctionnent, tout le monde fonctionne par assemblée générale où chaque employé a une voix, il y a un système de commission, tout est autogéré jusqu'à l'administratif, quoi. Elles n'ont aucune aide de l'État, elles sont complètement dans un refus de l'autorité à tous niveaux, donc elles appartiennent qu'à un collectif qui est le mouvement des usines récupérées, mais elles aimeraient s'en émanciper aussi parce qu'elles sont complètement hostiles à toute forme d'impératif venu de l'extérieur, quoi. Et donc c'est vrai que cette radicalité-là, les plus jeunes ont un peu de mal à le comprendre, quoi. Et puis on sent que ça reste fragile au niveau économique, hein. Elles sont c'est toujours un peu à cran et du coup elles ont beaucoup de travail et ça reste un modèle qui est certes autogéré et tout ce qu'on voudra, mais ça reste pour productiviste, ça reste une usine, ça reste des ouvriers, quoi. Donc ça peut poser question aussi sur le fond, quoi, enfin sur la manière de travailler, quoi. Voilà.
Et la place des hommes, du coup, dans tout ça, il y en a de plus en plus, je suppose, qui travaillent avec elle.
Il y en a quelques-uns, ouais. Alors ils sont, c'est vrai qu'ils se retrouvent un peu en retrait souvent, quoi. Enfin, ceux à qui j'ai pu parler, ils se sentent un peu. Ils préfèrent laisser les affaires, vraiment le pouvoir de décision aux femmes, quoi, aux plus anciennes, qui sont les plus grandes gueules aussi, quoi. Donc on sent qu'ils s'impliquent moins dans la vie, on va dire, démocratique, je sais pas. Enfin, en tout cas, au niveau des assemblées générales et tout ça, ils prennent moins d'initiatives, quoi.
Et ils fabriquaient quoi, du coup, dans cette usine ?
Alors c'est une usine de textile, donc ils étaient plus dans la confection masculine. Et donc maintenant, un de leurs principaux clients, c'est la compagnie aérienne argentine. Donc ils fabriquent les uniformes pour les stewards, les hôtesses de l'air, même si ça reste majoritairement des vêtements d'hommes. Et puis aussi pour des marques de haute couture où ils font des vestes, des choses comme ça, quoi. mais c'est elles qui ont dû retrouver vraiment tous leurs clients et puis éponger les dettes aussi que le monsieur Bruckmann avait laissé derrière lui en partant, quoi. Et donc lui, par contre, il est finalement revenu d'Uruguay. Il est quelque part ailleurs en Argentine où il exploite à nouveau des gens sans problème. Il n'a jamais rien versé. Les indemnités qui étaient réclamées par la justice, il s'est débrouillé pour frauder et il n'a pas été rattrapé, quoi.
C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Argentine n'est plus du tout en crise, quoi. La croissance a repris de plus belle. Le chômage atteint des taux records bas.
C'est vite dit, hein. Ça reste des chiffres, des histoires de croissance. C'est toujours un peu compliqué parce que c'est pas un signe de qualité de vie non plus, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le nouveau gouvernement, maintenant il est à son deuxième mandat de la présidente Kirchner, a tenu à récupérer, à essayer de tirer profit de toutes les initiatives et de la richesse des expériences issues de 2001. Donc il y a eu des bons côtés à cette implication-là de l'État, et en même temps il y a aussi c'est vraiment de la récupération politicienne, c'est-à-dire que par exemple la présidente a mis en place toute une grande foire qui s'appelle Technopolis, qui est sur les nouvelles technologies, l'innovation, et au sein de laquelle il y a tout un village coopératif. Mais on voit bien, enfin moi j'y suis passée, dans le village coopératif c'est un peu une vitrine de tout ce qui se fait au niveau de coopérative. En Argentine, il y en a, je crois, 23 000. C'est quelque chose d'assez énorme. Celles qui sont exposées sont des coopératives qui ont accepté de négocier avec l'État et donc d'avoir une partie de leur gestion qui est supervisée par l'État, il y a des personnes qui ont des doubles salaires et qui ont des responsabilités. Donc, par exemple, les femmes de la Bruckmann, quand on leur parle de ça, c'est pour elles une reproduction du modèle capitaliste, même si, enfin, c'est pas des vraies coopératives, quoi. Bon, il y en a quelques-unes, hein, dans le tas, mais c'est vrai que c'est aussi c'est compliqué, quoi. Il y a des situations assez diverses et la sortie de crise, ben oui et non, quoi, parce que ça reste quand même une menace pesante. Tout est très fragile et on sent que il faut quand même toujours continuer à travailler, il n'y a pas de subvention, au niveau des retraites, tout est très précaire et c'est omniprésent dans la façon de percevoir le quotidien, quoi, chez les gens, même ceux qui ont des situations qui peuvent paraître assez confortables, quoi.
Ce mouvement des usines récupérées, c'était quelque chose de massif au niveau du pays, ou alors c'était des expériences assez anecdotiques par-ci par-là ?
Non, ça a été quelque chose d'assez massif. Hein. Après, il y a des usines, comme celle de la Bruckmann, mais il y en a d'autres qui ont été un peu des modèles, quoi. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment connues pour avoir développé des choses. Il y en a une autre qui s'appelle Zanon. Il y en a une qui s'appelle Limpa. Donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai fait un petit peu le tour. Je les ai pas toutes vues, évidemment. Il y en a énormément. Mais chacune a développé des choses particulières en fonction des gens qui ont mené les mouvements. Donc il y a tout un travail de formation qui est très intéressant. Il y a des centres de formation continue qui se sont mis en place avec des réflexions sur la manière de travailler en groupe, sur justement le fait qu'il n'y ait pas d'hiérarchie. Il y a toute une réflexion là-dessus sur l'autogestion, sur l'indépendance, sur la manière de tirer profit des savoir-faire des uns et des autres. C'est des expériences solidaires et on voit que ça a énormément... ça joue énormément sur les individus, la manière de se comporter en général, et puis de les liens entre les gens, parce que ça va bien au-delà du travail, quoi. Ça change toute la manière de penser, de concevoir la vie politique aussi, de manière beaucoup plus directe, beaucoup plus plus engagée, quoi, plus participative. Enfin, c'est un mot un peu à la con, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai qu'en 2001, il y avait, outre le mouvement des usines récupérées, il y avait vraiment les assemblées de quartier, les assemblées populaires, où toutes les classes sociales se retrouvaient, parce que dans l'urgence économique, il y avait besoin de partager les problématiques, d'essayer de trouver des solutions collectives. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Bon, maintenant, les assemblées de quartier, il y en a très peu qui perdurent, mais ça reste dans une culture qui a pris sa place, quoi, qui est en profondeur.
C'est toutes les crises financières qui poussent à ce genre de pratique, ou alors est-ce que c'est lié au terreau particulier qui était déjà présent en Argentine ?
Alors ça, c'est trop compliqué. Il faudrait plus poser la question à des économistes et tout. Je pense que, de toute façon, quand tu as besoin de manger, t'as en fait plus créatif pour trouver des solutions. Après, c'est vrai que moi, j'y allais aussi en me demandant si justement il y avait peut-être des solutions qui avaient été trouvées là-bas qui seraient transposables en Europe. Et je me rends compte que c'est plus compliqué que ça parce que là-bas, il y a une... Enfin, c'est ce qui est contestable aussi, mais il y a une présence beaucoup moins forte de l'État au niveau des aides, par exemple, sociales et tout. Il n'y a pas une tradition comme ça. Même si là, il y a eu un système qui s'appelle le monotributo qui a été créé par Kirchner aussi, qui est une cotisation un peu globale, quoi, que les moins, ceux qui gagnent le moins peuvent obtenir pour qu'ils payent un peu la retraite, la santé, les choses comme ça. À part ça, il y a vraiment rien et du coup, la débrouille est beaucoup plus... Enfin, c'est beaucoup plus dans les mœurs, on va dire, qu'en Europe, où tout est beaucoup plus contrôlé. Il y a plus de normes. Je vois, par exemple, si on prend tout ce qui est immobilier, logement et tout, les logements sociaux là-bas, ça existe très très peu. Enfin, ça commence maintenant. Mais sinon, c'est tout le monde qui construit sa propre maison. Donc, dans le mouvement des coopératives, il y a aussi ça. Donc, c'est du coup des coopératives de quartier plus. Et donc, il y a une petite subvention de l'État pour plutôt trouver des matières premières. Mais après, c'est à la va comme je te pousse. Chacun construit la maison. Donc, il y a beaucoup de coopératives qui se sont formées sur ce modèle-là. Donc, c'est avant tout, d'abord, on construit la sienne, puis celle du voisin. Et en fait, on met en commun tout un quartier pour assurer le et partager les coûts et tout ça, et les savoir-faire. Mais il n'y a pas, avec les normes, par exemple, de construction qu'il y a ici, ce serait complètement inenvisageable.
Il y a eu pas mal d'immigration politique aussi, sous la dictature de communistes, d'anarchistes, d'immigration un peu politique, ça a joué ou dans ces formes d'organisation ou...
Alors bon. ça remonte avant la dictature, même s'il y a eu des vagues d'immigration, il y en a toujours d'ailleurs, mais il y a eu beaucoup d'immigrés, effectivement... italiens, espagnols, donc parmi lesquels il y avait beaucoup d'anarchistes, de communistes et puis d'utopistes, on va dire au sens plus large, libertaires et compagnie. Donc c'est vrai que ça a pu jouer un rôle, notamment je pense plus à la capitale, à Buenos Aires, parce que c'est quand même beaucoup de gens qui sont restés autour du Rio de la Plata, qui est le fleuve où il y a l'embouchure, donc notamment le quartier de la Boca, qui est un quartier très connu. Qui est l'ancien port de la ville. Mais on voit ça aussi en Uruguay, qui est de l'autre côté du fleuve, où c'est vrai qu'il y a eu des expériences anarchistes. J'ai pu aller voir une communauté, notamment, qui est vraiment issue de cette culture-là, quoi. Et donc c'est vrai que ça a pu jouer un rôle dans certaines expériences où on sent qu'il y avait une sensibilité politique antérieure à la crise, quoi. Un savoir-faire d'organiser les occupations des AG et tout ça, c'est sûr que ça a pu jouer un rôle. Après, c'était pas le cas partout, quoi. Dans les usines et tout, pas nécessairement. Parce que, par exemple, au niveau des syndicats, ce que je disais, c'est qu'il n'y a absolument aucune confiance dans les syndicats qui passent pour juste ramasser les cotisations et puis qui sont complètement corrompus. Donc, par exemple, ça, il n'y a pas trop, quoi.
Même les curés semblent autogestionnaires. Tu crois qu'il reste ça dans le cœur du nouveau pape argentin ou...
Oui, oui, oui. Alors, ça, c'est rigolo que ça tombe maintenant. Parce que, donc, moi, quand j'y étais, c'était déjà il y a quelques mois. Et, Et donc j'avais rencontré un peu par hasard, par un contact que j'avais eu en France de personnes qui avaient, de militants d'extrême gauche qui avaient été exilés en France pendant la dictature, certains qui sont restés, d'autres qui sont repartis, et parmi lesquels certains sont devenus journalistes, et puis un mec en particulier que j'ai croisé là-bas qui s'appelle Thomas Fernandez, et qui m'a présenté à un curé qui a un parcours assez étrange. Et donc lui, il travaille, fait des années et des années, il officie sur une petite ville de banlieue de la province de Buenos Aires, qui s'appelle Merlo. Et donc, il est entouré de plein d'amis à lui qui sont tous athées, soit communistes, soit anarchistes, soit philosophes, enfin bon, qui en tout cas se posent des questions, et puis souvent des questions intéressantes. Et donc, je les ai rencontrés, toute la petite équipe, là, dans un studio de radio, dans une maison d'un lotissement, tout paumé dans cette petite ville où les rues sont encore en terre et tout. Et puis on a fait la tournée avec lui du village, de tout ce qu'il a construit là-bas. Et donc c'est un prêtre, enfin un peu dans la lignée des prêtres ouvriers, donc c'est un curé tiers-mondiste qui a été un des fondateurs de la théologie de la libération en Argentine, qui est un mouvement de chrétiens de latino-américains qui a été fondé par notamment au Brésil et tout ça, et qui prône l'émancipation des pauvres par eux-mêmes, par la transformation sociale et tout ça, quoi. Donc tout un travail d'émancipation et pas de charité, on va dire, qui est la plus traditionnelle dans l'Église. Donc il y a des grosses tensions, il y a toujours eu, hein, depuis que ça existe, la théologie de la libération, entre ces curés-là et puis l'Église classique, on va dire, et en Argentine, l'Église traditionnelle et de droite a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir et d'influence. Ça ressort en ce moment sur la question de l'avortement, notamment, de la légalisation et tout. Et donc voilà, la scission a été particulièrement violente au moment de la dictature, puisque ceux qui participaient à la théologie de la libération étaient persécutés, chassés, traqués et tout. Donc ce curé là, qui s'appelle Raoul Villa, il a maintenant 76 ans, et à l'époque il cachait des gens chez lui, donc sa maison c'était le siège de plein de débats politiques et tout ça. Et puis là il a quand même perdu quelques amis, lui-même a été menacé de mort pas mal de fois, et donc il porte un peu toute cette histoire là. Et encore aujourd'hui, voilà, maintenant il est conseiller de temps en temps de la présidente Kirchner pour certaines questions. Et là, il racontait là il n'y a pas longtemps qu'il a été, pendant son séminaire, dans ses jeunes années, il était avec le pape, qui lui, donc le nouveau pape François Ier, qui lui est plutôt dans une ligne plus traditionnelle d'aide aux pauvres, mais de manière plus charitable et pas dans un travail d'émancipation. Donc, d'où aussi les doutes qu'il y a eu à son sujet sur sa participation et sa collaboration avec la dictature. Mais donc le curé Raoul Villa dit que c'est pas le pire, qu'il faut bien voir que tous les membres de la hiérarchie haute de l'Église, de toute façon à ce moment-là, ont pas été très clairs et n'ont pas pris la défense, en tout cas des personnes qui étaient persécutées par la dictature, mais que le nouveau pape ne fait pas partie de la frange la plus droitiste, bien au contraire, et que ça reste quand même plutôt une source d'espoir au niveau de la lutte contre la corruption dans l'Église, quoi. Enfin, il a ses ruches au fond du jardin, et puis voilà, quoi, entre deux verres de vin, parce qu'il aime bien boire, il va faire son miel. Je pourrais pas garantir qu'il soit pas transgénique, parce que...
Transgénique parce qu'il y a beaucoup de soja transgénique qui s'implante aussi là-bas, non?
Mais du coup, ouais, ça, bon, c'est encore un autre sujet, parce que c'est vaste, mais c'est vrai que ça fait partie des pays où Monsanto s'est introduit, et ça fait maintenant une quinzaine d'années que le soja transgénique a pris toute la place quasiment des cultures qu'il y avait, vivrières et tout ça, quoi. Et c'est un désastre écologique et sanitaire, parce que il y a des cas de cancer, il y a énormément de cas de cancer, de malformations, de fausses couches et tout ça dans les zones où il y a des épandages de produits toxiques, quoi, enfin de Roundup en gros. Et donc là ça commence un peu à émerger, mais c'est vrai que ça a été un débat qui est longtemps resté étouffé, quoi. Il y a encore à voir, il y a encore à faire, en tout cas c'est peut-être un peu chaotique, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant, parce que ça, c'est en mouvement, on sent que c'est vivant, et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'idées qui émergent. Et c'est vrai que par rapport à ce qui se passe en Europe actuellement, enfin, c'est aussi peut-être pour ça que ce n'est pas des solutions transposables, parce que si on sent qu'il n'y a, a plus l'énergie, ce n'est pas la même histoire. C'est, là-bas, c'est un pays qui est encore jeune, qui a tout à inventer. Et nous, on a l'impression et la sensation souvent que c'est un peu derrière nous, qu'on a essayé de lutter, de faire d'autres choses et que ça a échoué successivement. Voilà, donc c'est un peu moins dépressif, on va dire, là-bas, parce qu'il n'y a pas le temps pour déprimer. Il faut se lever, il faut aller au charbon, quoi.
Hier, c'était la Grèce, aujourd'hui, c'est le tour de Chypre. T'as pas de projet de voyage, du coup, t'attends que ce soit le tour de la France ou...
Non, je sais pas, pour l'instant, c'est la crise de la presse aussi. C'est bon, faut voir. Faut surtout beaucoup d'imagination, et puis c'est vrai que les voyages, c'est important quand c'est bien fait. Parce que ça permet de faire circuler les idées, de faire... moi là, j'ai ce projet de Cartonera qu'on est en train de mettre en place entre Paris, il y en a une à Toulouse, il y en a une à Clermont-Ferrand, c'est tout un circuit d'édition où on fait... Enfin, c'est l'idée de faire circuler, de traduire, d'échapper aussi à tout le réseau d'édition classique qui est toujours un peu occupé par les mêmes, quoi. Et voilà, donc là c'est faire circuler des idées neuves, puis de la poésie, parce que c'est important, la poésie, il en faut un peu. C'est plus un peu plus de douceur et tout ça, et de rêve, et puis enfin, faut vraiment imaginer des nouvelles façons de vivre, des nouvelles façons de penser, de faire, de créer. Je pense que c'est ça qui va nous sauver, quoi.
On peut rappeler, du coup, pour les sources, si ça vous intéresse, il y a un documentaire qui s'appelle « Les femmes de Bruckmann » d'Isaac Istan. On peut voir des extraits sur Internet.
Ouais, c'est un super film. Un super réalisateur aussi, d'ailleurs, qui fait plein de projets super. Isaac Istan, qui est un Turc exilé au Québec, et qui a fait beaucoup, beaucoup autour des crises économiques, justement, et des expériences de femmes émancipées. Si vous avez l'occasion d'aller voir ce qu'il fait, c'est génial.
Et puis sinon, on peut rappeler que toi, t'es quand même à la recherche d'éditeurs aussi pour ce genre de reportage.
Ouais, d'éditeurs, soit pour un livre, soit pour... il y a un des reportages qui devrait passer encore dans l'Humanité, là, le 5 avril, sur le soja transgénique et une lutte encore de femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui montent des collectifs en Argentine, puisque les hommes se laissent plus vite abattre, apparemment. Enfin, c'est l'explication que j'ai eue. Dans la ville de Cordoba, de femmes qui ont gagné un procès contre les producteurs et pendeurs de pesticides.
Je te remercie, Flora.
Merci, bisous, ciao. Bon après-midi.
Voilà, merci donc à Flora pour cet entretien. Son article sur la Bruckmann va finalement sortir dans l'article 11 du mois de mai. On lui fait un gros bisou.
Et pendant ce temps-là, l'Argentine en crise n'écoute pas que du tango. Mais l'Amérique du Sud tout entière bat le pavé de la cumbia électro inspirée de la musique traditionnelle colombienne. Impossible de résister, laissez-vous juste emporter.
Sur ce, on vous laisse, on vous rappelle comme d'hab que l'émission est podcastable sur le site de Radio Sainte-Afrique, www.radiosainteafrique.com. Allez, ciao ciao.
Ciao ciao.
Veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar un horizonte para bailar. De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar un horizonte para bailar. Tú baila, que este sonido te mueve mente en calma, pa' que lo hueco que otra se prende el falla, transita el ritmo de mi música, nueva alianza sin carga. Yeah. Toda la nación traiga la amplificación.
veía. Vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería. Vine a buscar una gente para bailar. Hace ya un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy pido al selecta un ritmo de reggae para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow de esta mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. De todo lo que veía, vine a hablar de la vida.